Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la justice de Dieu sera toujours exacte, les jugements du Seigneur toujours impartiaux, et les exigences de la sainteté de Dieu renfermeront toujours tous les hommes, même les meilleurs, dans la désobéissance. S'ils n'ont que leur propre justice, leurs propres bonnes œuvres à présenter à la barre du grand tribunal divin, ils seront toujours perdants. Le seul moyen de salut, nous dit l'Évangile, consiste à prendre Jésus-Christ comme notre Sauveur, d'une part, et en même temps comme notre Seigneur, c'est-à-dire de lui soumettre notre vie pour faire sa volonté et marcher dans ses voies. C'est cette démarche libre et volontaire, car il n'y aura au ciel que des volontaires, qui nous est présentée dans le texte biblique à la base de notre prédication de ce soir. Et c'est un effet, un fruit important d'un tel engagement qui nous est aussi exposé dans le témoignage qui suit, qui a pour titre « Sois fidèle ». Quoi qu'il arrive. Ça a marché, s'écria Robert en entrant précipitamment dans la pièce où sa mère était occupée à des travaux de couture. Qu'est-ce qui a marché pour toi, mon garçon ? Demanda-t-elle. J'ai enfin obtenu la place que je désirais depuis longtemps. C'est un vrai coup de chance, s'exclama-t-il. Rien n'est le fruit du hasard, rectifia doucement la maman, car Dieu dans le ciel conduit toutes choses. Mais raconte-moi maintenant ce qui est arrivé. Je me trouvais ce matin au bureau quand M. Harley était entré. « Nous avons besoin, a-t-il dit, de quelqu'un pour assurer une permanence aux centrales téléphoniques. Je prendrais bien un jeune garçon dévoué qui pourrait dormir au bureau et aider pendant son temps libre quand il y a de la presse. Ce n'est pas un travail trop dur. » Puis le directeur est sorti, je l'ai suivi dans le vestibule et lui ai demandé s'il voulait bien m'employer. Il a répondu que je pourrais essayer... Et demain, je commence mon travail. Il m'a bien dit que cela ne gênerait en rien mes études. J'ai cependant ajouté qu'il fallait d'abord que je t'en parle, ce qui lui semblait tout à fait juste. Oui, suis toujours les conseils de ta mère, a-t-il dit, et tu peux être sûr que tout ira bien pour toi. Alors il faut saisir cette offre, répondit en souriant la maman. Mais souviens-toi que c'est un poste qui comporte une grande responsabilité, et il ne faudra jamais que tu oublies de faire ton devoir, aussi difficile qu'il puisse te paraître. Robert commença donc son travail et tout se passa bien. Quand le soir tombait, la compagnie de sa mère lui manquait, mais elle descendait parfois au bureau pour passer un moment avec lui. Une année s'écoula ainsi. L'assistance de Robert était loin d'être superflue pour M. Harley. Il s'était en effet montré très fidèle dans tout ce qu'on attendait de lui. Le printemps était de retour, et avec lui les inondations habituelles qui dévastaient tant de maisons sur les bords du Mississippi. Mais dans la petite ville, les habitants n'éprouvaient pas d'inquiétude, les digues étaient solides, et il y avait bien longtemps que les eaux ne les avaient pas franchies. Cette année encore, des mesures avaient été prises. Chaque nuit, on montait la garde, et tout endroit particulièrement menacé était en liaison directe avec la station téléphonique. Les riverains demeuraient donc convaincus qu'il n'y avait aucun risque. Cependant, l'eau montait toujours. Des régions du nord parvenaient des nouvelles des dégâts causés par l'inondation, mais personne n'y prêtait tellement attention. Le niveau du fleuve continuait à s'élever, et ceux qui vivaient dans le voisinage des digues commencèrent enfin à s'inquiéter. « On a vu pire, bien des fois, » disaient-ils, tentant ainsi de se rassurer. Un samedi après-midi, Robert était seul au bureau, quand le directeur entra. « Je suis obligé de partir en voyage, Robert, » dit-il. « Mais je ne pense pas qu'il y ait de danger, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je ne serai pas parti longtemps, et je peux demander à Nora de venir avec toi l'après-midi, si tu veux. »« Ce n'est pas nécessaire, je peux bien rester tout seul, » répondit Robert. Robert se trouva donc solitaire tout l'après-midi. Le téléphone était resté relativement silencieux, quand soudain, une sonnerie insistante retentit. Au bout du fil, un appel pressant se fit entendre. « La digue s'est rompue à 70 km en amont, et il faut que je me dépêche de partir. Envoyez l'alerte dans toutes les directions pour dire aux gens de sauver leur vie. » Robert fut terrifié. Il courut jusqu'à la porte. Il fallait qu'il rentre à la maison pour sauver sa mère. Mais au moment où il l'atteignait, il lui sembla entendre une voix qui disait « Il ne faudra jamais que tu oublies de faire ton devoir, aussi difficile qu'il puisse te paraître. » Et maintenant, son devoir était de rester au téléphone. Beaucoup de vies pouvaient en dépendre. Il hésita un court instant, puis retourna près de l'appareil. Il appela les uns, puis les autres, les avertissant du péril, et leur demandant de transmettre à d'autres encore l'information pour qu'ils se tiennent sur leur garde. Il persévéra ainsi toute la soirée, tandis que le fleuve continuait à monter lentement, mais sûrement. Quand vint le soir, l'eau recouvrait les rues de la ville. L'obscurité s'étendit. Robert entendit les grondements des flots, des cris de détresse, et le bruit de débris de planches et de poutres heurtant les murs. La maison tiendrait-elle jusqu'au matin ? Il n'osait pas y penser. Fidèle au poste, il travaillait fiévreusement, lançant des messages d'alerte de plus en plus loin. Le jour se leva enfin. Monsieur Harley rentra et dut prendre un bateau pour parvenir à la station téléphonique. Il trouva Robert prêt à succomber de fatigue. « Mon pauvre courageux garçon » s'exclama-t-il. Mais Robert le dévisageait sans paraître comprendre ce qu'il voulait dire. Un seul mot sortit de ses lèvres. « Maman !»« Elle est sauvée et elle t'attend, » dit Monsieur Harley. « Tu ne comprendras jamais combien de vies et de biens tu as sauvées cette nuit par ta fidélité dans l'accomplissement de ton devoir. » Peu après, il était dans les bras de sa mère. Elle n'était pas dans la ville quand le flot avait monté, mais aussitôt qu'elle avait entendu les premières informations alarmantes, elle avait commencé à prier pour son enfant, pour qu'il demeure ferme et fidèle à son poste. Robert se souvint du terrible instant où il avait failli abandonner. « Et Dieu m'a soutenu, maman, » murmura-t-il, levant vers elle des yeux pleins de reconnaissance. Voilà un témoignage de la fidélité, d'une vie et d'un engagement de fidélité auquel Dieu nous appelle. Nous allons lire ensemble maintenant dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er, notre texte de notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons remettre toute la suite entre les mains de notre Dieu. Nous te remercions Seigneur, parce que tu es celui qui veut nous aider à être fidèle, fidèle déjà à toi-même, à ta personne bénie Seigneur, fidèle à ta parole, fidèle dans les engagements que nous avons pris de te suivre les uns ou les autres, et fidèle aussi dans notre position, dans notre famille, dans notre entourage, dans la société, là où tu nous places, Seigneur. Et merci, parce que c'est vrai qu'un marqueur d'un véritable croyant, c'est justement cette fidélité à laquelle tu nous invites et dans laquelle tu veux nous soutenir. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ta parole aussi, pour qu'elle fasse du bien à chacun. Amen. Ésaïe, chapitre 1er, donc, nous lisons à partir du verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Nous relisons le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Voici donc notre texte qui se trouve au début du livre d'Ésaïe, dans le premier chapitre, et même le contenu de ce premier chapitre, d'une certaine manière, tourne autour de ce texte. Tout ceci afin de nous en montrer l'importance, puisqu'il en constitue effectivement le point central. Ce texte a été un moyen de soulagement extraordinaire pour de nombreuses générations d'hommes et de femmes qui avaient le désir de venir au Seigneur, mais qui n'osaient le faire à cause du péché, du fardeau de culpabilité qui pesait sur leur âme. Ils ont compris par là que le désir du Seigneur était vraiment de leur pardonner, et plus que cela, de les décharger du fardeau et de remplacer leur injustice et leur souillure par une justice et une pureté profonde venant de lui. Ainsi peut encore être vérifiée la parole du Seigneur qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et encore, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ce texte est une preuve de l'amour immense du Seigneur en faveur des coupables que nous sommes, et aussi du sacrifice qu'il fait en disant et en accomplissant ce qui est marqué dans ce texte. En effet, il ne faut pas s'imaginer que Dieu puisse passer l'éponge sans autre. Il faut nous rappeler qu'il est saint, et même trois fois saint, c'est-à-dire qu'il ne peut voir et supporter le péché. Pour nous qui buvons l'iniquité comme l'eau, c'est quelque chose de très difficile à concevoir. Mais le péché est vraiment cette chose abominable que Dieu déteste, et qui ne peut que le plonger dans le plus profond dégoût, si j'ose m'exprimer ainsi. Il faut aussi nous rappeler qu'il est juste, et infiniment plus juste que nous. C'est-à-dire que le péché doit absolument recevoir son châtiment. Si le plus petit des péchés ne recevait pas son châtiment, Dieu deviendrait injuste, ce qui est absolument inconcevable. Et le châtiment du péché, c'est la mort, nous rappelle l'Épître aux Romains. Il n'y a pas d'autre châtiment que cela. Le péché, même celui qui nous paraît le plus bénin, est quelque chose de si terrible devant Dieu qu'il ne peut y avoir que ce châtiment-là. La mort, et particulièrement la mort spirituelle, la perdition éternelle, l'éternité de souffrance dans les ténèbres du désespoir, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il faut donc que nous, ou notre substitut, subissions la peine de nos péchés. Jésus est le substitut. C'est lui qui a subi la condamnation la plus terrible pour nous à notre place, afin que nous puissions être pardonnés, afin que Dieu puisse effacer nos péchés, comme le dit notre texte, et qu'en même temps, sa justice soit également satisfaite. Il faut également nous rappeler que ceux auxquels le Seigneur s'adresse ici étaient excessivement coupables. Leur péché était comparé à celui de Sodome et de Gomorre, comme on pourrait le voir au verset 10 qui précède notre texte. Ce qui montre combien ils étaient abominables aux yeux de Dieu. Quelle preuve de sa patience à leur égard! Quelle preuve de son amour! Il s'adressait à des pécheurs endurcis, rebelles, qui depuis longtemps lui avaient résisté en face, et il leur propose encore de les pardonner et de les bénir. Et voilà encore une raison d'encouragement supplémentaire pour chacun de nous, même le plus coupable, puisqu'il prouve ainsi qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Christ, et qu'il veut le faire dès aujourd'hui. Il est vrai que beaucoup de croyants connaissent le verset 18, et il est important de le connaître, mais il est important aussi de connaître son contexte. Car il ne s'agit pas de croire qu'on peut venir au Seigneur dans n'importe quel état d'esprit, être pardonné et purifié, et puis faire ensuite n'importe quoi. Au contraire, il y a une attitude, une bonne attitude, qu'il faut avoir, qu'on peut avoir, que même le plus grand pécheur peut avoir s'il le désire, et qui sera alors le moyen de voir ces excellentes bénédictions venir sur nos vies. C'est ce que nous enseignent ces versets 16 à 20 que nous voulons méditer plus profondément maintenant. Il faut donc, premièrement, se laver et se purifier, vers le début du verset 16. Ensuite, en deuxième, ôter de devant ses yeux la méchanceté de nos actions. Ensuite, cesser de faire le mal, toujours dans le verset 16. Puis apprendre à faire le bien, début du verset 17. Et puis rechercher sa justice aussi. Et puis venir à lui, début du verset 18. Et puis en septième, plaider avec lui, continuation de ce verset 18. Avoir de la bonne volonté, début du verset 19, être docile, verset 19 encore, et enfin en dixième, considérer l'importance de la parole de l'Éternel à la fin du verset 20. Et nous pourrons considérer tour à tour ces divers points. Donc en premier, il faut se laver et se purifier, début du verset 16. Comment pouvons-nous nous laver et nous purifier de nos propres péchés ? Quand nous emploierions du nitre et beaucoup de potasse, nous n'y arriverions pas, dit la parole de Dieu par ailleurs. Quand nous ferions de notre propre chef seulement toutes sortes d'efforts, de bonnes résolutions, de sacrifices plus grands les uns que les autres, nous ne parviendrions pas à enlever ces souillures de péché et leurs conséquences. Il y faut la dimension essentielle de l'œuvre de Jésus, du pardon et du sacrifice de Christ. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a qu'ainsi que l'œuvre se fera. Mais cette œuvre nécessite toujours notre part. Vous pouvez mettre un enfant qui s'est roulé dans la boue en présence du meilleur des savons, cela ne servira à rien s'il ne se l'applique pas au moyen du gant de toilette. Et de la même manière, il faut que nous nous appliquions le sang de Christ. Ceci se fait par la foi, c'est-à-dire que nous reconnaissons notre péché, que nous lui confessons ce péché avec une profonde conviction, que nous nous humilions devant lui, que nous passons par une profonde repentance et que nous plaçons notre confiance en sa parole et en son sacrifice. Et ces choses-là, il faut que ce soit nous qui les fassions. C'est ainsi que nous nous lavons et nous nous purifions. C'est notre part que nous pouvons et devons accomplir. Je continue dans mon verset 16 et je vois le deuxième point. Il faut ôter de devant ses yeux devant les yeux du Seigneur la méchanceté de nos actions. Voilà un grand point. Réaliser que nous sommes devant lui, nous sommes devant sa face. Tout ce que nous disons, faisons ou pensons est devant lui. Il est écrit « Tout est à nu et découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il est écrit encore « Ô Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me couche. Tu pénètres de loin ma pensée. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et l'Écriture lui dit encore « Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au plus profond du séjour des morts, t'y voilà. » Quelle grande et glorieuse chose quand nous réalisons vraiment cela, quand nous en sommes profondément et continuellement conscients. Ce sera pour nous un garde-fou pour nous préserver d'agir ou de parler ou de penser de mauvaise façon. Ce sera aussi pour nous une assurance, car nous saurons ainsi continuellement que le Seigneur est à nos côtés, dans tous les moments de notre vie, et même au milieu des circonstances les plus périlleuses. Ah, que nous puissions donc ainsi marcher devant sa face à la lumière des vivants. Et puis la troisième chose qui nous est recommandée, il nous faut cesser de faire le mal. C'est dans la suite, la fin de ce verset 16. Cela signifie que d'arrêter de faire le mal est quelque chose de possible. Il y a comme cela des ordres dans la parole de Dieu. Par exemple, quand il est écrit « Renoncez au mensonge » ou encore « Ne vous enivrez pas de vin » ou encore « Que toute clameur disparaisse du milieu de vous » ou encore « Par honneur, usez de prévenance réciproque » ou encore, bien sûr, « Aimez-vous les uns les autres » et bien d'autres qui nous montrent le désir de Dieu. Il s'agit bel et bien d'ordres sans équivoque de sa part. Et quand le Seigneur donne des ordres, il nous donne en même temps la capacité de les accomplir. Ah, il y en a qui disent « Mais je ne peux pas cesser de faire telle ou telle chose que la parole de Dieu réprouve. Dans mon travail, dans mes affaires, dans mon entourage, cela se pratique couramment. Cela peut même être nécessaire, sinon je ne peux pas m'en sortir. » Ah, mes amis, c'est là une question de confiance en Dieu. C'est là une question de bénédiction, une question de salut. La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Dieu n'est-il pas capable de sauver, de secourir, de délivrer, d'ouvrir des portes ? Il y a tant de promesses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Certainement, si nous cherchons son royaume et sa justice, il nous donnera toutes choses en plus. L'Éternel pourvoira et il agira en faveur de ceux qu'il aime et s'attachent à lui. Amen. Et puis le début du verset 17 nous dit qu'il nous faut apprendre à faire le bien. L'apôtre Paul, parlant de la part du Seigneur, nous dit « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais combattez le mal par le bien, surmontez le mal par le bien. » Il n'y a pas, il n'y aura jamais, en ce qui concerne les choses de Dieu, de position neutre. Ou nous sommes dans le camp du mal, ou nous faisons partie de l'armée du Seigneur et luttons pour le bien. Ceux qui ne veulent pas s'engager clairement et positivement pour Christ font automatiquement partie de l'armée des ténèbres, des hordes du diable. « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse », dit le Seigneur à ce sujet. Voici une anecdote qui a pour titre « Le portrait dans la nuit ». C'est le témoignage d'un officier qui était converti à Jésus-Christ et ça date de la guerre 14-18. C'était un soir de printemps de l'année 1916. Nous revenions des tranchées de première ligne à l'est de Soissons. La journée avait été rude et au-delà de Billy-sur-Aisne, là-bas, du côté de Venizel, on entendait gronder la bataille sans fin. Nous étions fatigués, harassés, tristes aussi, car plusieurs de nos compagnons d'armes manquaient à l'appel ce soir-là. Nous marchions, le dos un peu voûté, ne prenant plus garde au bruit du canon qui, sans arrêt, tonnait au loin dans l'obscurité grandissante. La lune s'était levée, sereine comme au soir d'autrefois. Alors voyant que quelques-uns de mes hommes commençaient à dormir en marchant et que les autres faisaient des mines soucieuses, je voulus essayer de remonter leur morale et je me mis à chanter. Tous reprirent en chœur, puis on chercha des refrains joyeux. Et bientôt, les rires et les quolibets se firent à mon grand plaisir entendre à nouveau dans la troupe. Seul, un jeune soldat qui marchait près de moi restait morne et silencieux. Il m'était particulièrement sympathique, ce garçon très fin, à l'air modeste et doux. Il avait un beau visage, empreint de sérieux et de mystère. Il se tenait un peu à l'écart des autres, ne leur parlait jamais de son passé. Il était délicat dans ses manières, dans son langage. Ses camarades l'appelaient souvent la petite fille, mais on le connaissait sous le nom de Benoît. Dans de longues randonnées, il s'arrangeait à marcher près de moi. Quand dans mes conversations, j'essayais de traiter de questions morales et même religieuses, devant le danger, les plus indifférents pensent au sort des âmes. Il écoutait avidement, ouvrant ses yeux bleus, tout grand d'étonnement et d'extase, comme s'il avait entrevu un coin de ciel jusqu'alors voilé pour lui. Avec cela, courageux comme un lion, on eût dit qu'il cherchait le danger. Trois fois ce jour-là, je l'avais rappelé d'un poste avancé où il croyait devoir s'exposer. « Qu'as-tu ce soir, mon ami Benoît ? » dis-je en frappant sur son épaule amaigri. « Tu n'as pas de mal au moins, aucun pruneau. » « Mon lieutenant, si je n'en ai pas attrapé aujourd'hui, c'est bien grâce à vous, » me répondit-il d'une voix étouffée, comme en proie à une vive émotion. « Vous le savez, vous m'avez fait égarer à temps plusieurs fois. Mais il faut que je vous le dise enfin, vous n'avez pas seulement sauvé la vie à maintes reprises, mais vous avez peu à peu transformé mon âme en me montrant un idéal que j'ignorais. » Il s'arrêta un instant, l'émotion lui serrait la gorge. Allait-il me dévoiler le douloureux secret que je sentais caché au fond de son cœur ? Voyant que je respectais son silence, il reprit avec plus d'assurance. « Jamais personne ne m'a parlé comme vous le faites. » Mes camarades de jeunesse prenaient dans leur société la haine, dans leur discours, pardon, la haine de la société, la vengeance, la passion des richesses qui, mal acquises, ne laissent pourtant que rancœur et désillusion. « Mais vous êtes venu, vous m'avez fait connaître celui qui, au lieu de désespérance, a parlé d'espoir. » Au lieu de vengeance, n'a demandé que le pardon de ceux-mêmes qui le conduisaient au supplice. « Oui, dis-je, le nom de Christ éclaire notre nuit noire d'une resplendissante lumière. »« Oh, mon lieutenant, reprit le jeune homme à voix basse, si vous saviez comme je voudrais pouvoir effacer ma vie d'autrefois. Mais je crains encore, n'est-il pas vraiment trop tard ?»« Il n'est jamais trop tard pour la repentance. Les bras du Père sont toujours ouverts pour accueillir le Fils qui revient à lui. » « Oh, mon passé, combien il me ronge maintenant !» murmura encore Benoît. Puis le silence se refit entre nous, tandis que je me demandais quel était ce passé et n'osais l'interroger. Au moment de nous séparer, mon lieutenant reprit soudain Benoît d'une voix grave. « Quoi qu'on vous dise, soyez sûr que désormais je ne faillirai pas. Croyez en moi, toujours !» Et je vis briller des larmes dans ses pauvres yeux suppliants. Je lui tendis la main et répétai son dernier mot. « Toujours, mon ami !» Nous avions traversé les ruines du village et atteint les abris que nous devions occuper pour la première fois. Mes ordres donnés avant de prendre du repos, j'allais inspecter la plupart des cagnas dans lesquels les hommes s'installaient déjà pour passer la nuit. Lorsque je pénétrai dans la cahute bizarre qui devait abriter Benoît et ses compagnons de « chambrée », entre guillemets, j'entendis de gros rires. Lui et ses camarades, tout en se préparant leur couchette, inspectaient à l'aide de lumignons variés les murs couverts de dessins amusants, de caricatures grotesques et d'images dans des revues plus ou moins actuelles, trouvées probablement dans une maison du village bien approvisionnée en ce genre de publications. Tout à coup, le caporal Billard, un Parisien joyeux, avisa une photographie remarquablement nette, découpée sans doute dans un numéro de « L'Illustration ». Elle représentait un groupe d'affreux bandits, trop célèbres quelque temps avant la guerre, par leurs attaques nocturnes à main armée, leurs pillages de banques et même leurs assassinats. « Tiens, la bande !» s'exclama le caporal. Puis, approchant son briquet, il regarda la gravure de plus près. Alors on entendit un juron formidable. « 1000 trompettes de Boche, hurla-t-il. Si ce type-là dans le groupe n'est pas cette sainte nitouche de Benoît, je veux bien être pendu !» Bouleversé, je regardais le portrait. Je regardais mon humble ami. Pas de doute, c'était lui. On distinguait même une petite marque foncée qu'il avait à la tempe et qui était là aussi sur le papier fatal, comme une minuscule tache noire accusatrice. Pauvre Benoît, quel affreux supplice il semblait endurer. Il eût certes préféré être à ce moment-là sous le feu des ennemis plutôt que sous les coups d'œil perçants pleins de dégoût, d'horreur et de reproches qui l'accablaient. Il leva sur moi un regard de si profonde détresse qu'en un instant je compris tout, bien mieux que je l'avais fait jusqu'ici. Sa jeunesse sans méchanceté, mais sans joie, sans principe moral. L'entraînement de sa faiblesse dans le mal par de mauvais amis. Puis le remords instinctif d'un cœur qui, sous d'heureuses influences, eût été droit et bon. Puis la douleur, la honte qui maintenant fermait sa bouche. et plissait son front. Il eut un cri de défense suprême. « Je n'ai jamais, jamais tué, je ne suis pas un meurtrier !» Et son pauvre corps s'affaissa à mes pieds, secoué par des sanglots d'enfant. Alors, redevenant le chef qui veut être obéi, je dis d'un ton de commandement, « Soldats qui êtes ici, vous m'entendez? Vous n'avez rien vu. Je sais que ce Benoît-là est mort depuis 2 ans. » Et allant au mur, j'arrachai l'image et la déchirai en 1000 morceaux. Lorsqu'après une courte permission, quelques jours plus tard, je revins à la tranchée, la place de Benoît était vide. Le caporal Billard, les yeux brouillés de larmes, me raconta sa fin touchante au retour d'une mission périlleuse qu'il avait sollicitée pour lui à la place d'un camarade père de famille. « Il est mort en souriant, » ajouta le caporal. Au dernier moment, il a tendu les bras vers un être invisible en murmurant doucement « Mon sauveur !» Le caporal me regarda et son visage un peu gouailleur d'enfant de Paris avait à cet instant une expression nouvelle, tandis qu'il demandait en hésitant un peu « Mon lieutenant, si vous voulez bien, m'apprendre, à moi aussi, mieux connaître ce sauveur. » Alors bien sûr, un tel exemple ne s'applique pas directement à chacun d'entre nous, mais le principe est vrai, comme nous avons besoin, pour effectivement apprendre à faire le bien, à nous mettre à l'école du Seigneur, à l'école de ceux qui sont plus avancés que nous dans la foi, à l'école de cette assemblée de croyants dont nous avons tous un profond besoin. Et puis au verset 17 encore de notre texte, il nous est indiqué qu'il nous faut rechercher la justice. Dieu veut que nous le cherchions. Il est écrit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ah, sachons-le bien, le premier grand péché de l'homme, c'est de ne pas chercher. De ne pas chercher Dieu, de ne pas chercher le royaume de Dieu, de ne pas chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas qu'il serait incapable de chercher. Voyez les trésors d'ingéniosité, d'intelligence et d'effort que les hommes dépensent pour arriver à leur fin, pour découvrir ce qu'ils ont le désir de chercher. C'est bel et bien l'indifférence et l'insensibilité de l'incrédulité qui font qu'ils ne cherchent pas, à moins d'y être contraints par des circonstances douloureuses et pénibles, pour sortir desquelles ils ne voient plus d'autre échappatoire que Dieu. Et ainsi, en a-t-il été de même de plusieurs parmi nous ? Mais le péché de l'homme va souvent plus loin encore, car très fréquemment, la justice se présente devant eux, et ils se détournent volontairement d'elle pour se plonger dans la justice parce que cela les dérange trop. C'est visible en ce qui concerne la justice simplement humanitaire, sociale sur cette terre. Les hommes de notre société refusent de sacrifier de ce qu'ils ont, de leur confort, de leur prospérité, de leurs aises, de leur abondance, pour venir en aide à cette immense détresse du monde. Ils font la sourde oreille, elles ne veulent pas entendre parler d'une semblable justice qui les dérange trop. C'est plus vrai encore en ce qui concerne la justice devant Dieu, la justice divine. Ah, ils ne veulent pas d'une justice trop exigeante. Ils se contentent d'une justice très relative, taillée à leur mesure, que la Bible appelle leur propre justice et qui les condamne. Ils considèrent donc, comme fanatiques et excessifs, ceux qui ont faim et soif de cette justice. Et combien qui sont ainsi, quelle grande majorité de personnes qui sont dans un tel état d'esprit. Mais qu'est-il écrit dans la parole du Dieu vivant ? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Et le Seigneur nous appelle à venir à Christ, qui a été fait pour nous justice. Et c'est parce que nous avons la conviction que cette justice de Dieu aura finalement le dernier mot que nous voulons nous y attacher d'autant plus. Notre sixième point, au verset 18, nous rappelle qu'il nous faut venir à lui. Ah, il y a un pas décisif à franchir. Au-delà des bonnes intentions et des bons désirs, il faut une réalisation. Le fils prodigue, qui souffrait de toutes sortes de façons au milieu des pourceaux, a fini par se dire en lui-même « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai ». Et surtout, ce qui est recommandable et très remarquable, c'est qu'il est marqué « Il se leva et alla vers son père ». Et c'est alors que la misère a été changée en joie pour lui. Ne voulez-vous pas vous lever aujourd'hui pour aller vers lui ? Ah, il a déjà accompli et de loin la plus grande partie du chemin. Si cela n'est pas fait, aller au Seigneur pour avoir la vie serait impossible, puisqu'il est trop élevé pour nous. Mais Jésus est venu jusqu'à nous, et c'est pourquoi nous pouvons chacun venir à lui depuis le point où nous en sommes parvenus aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il pourra accomplir toutes ses bonnes œuvres et toutes ses bonnes promesses. Et puis le verset 18 insiste aussi sur le fait qu'il faut qu'il plaide avec nous. Il plaide avec nous, ceci nous parle de tribunal. Dieu tient tribunal ouvert tous les jours. Tous les jours, il enregistre des plaintes. Des hommes cruels, intempérants, injustes envers leurs semblables. Des fauteurs de guerre. Des forts qui écrasent les faibles. De ceux qui trompent autrui. De ceux qui pêchent à la face du soleil. Comme de ceux qui commettent des abominations dans les lieux secrets. De ceux qui prononcent des paroles insensées au milieu de beaucoup de monde. Comme de ceux qui conçoivent l'iniquité dans leur cœur. Tout cela est soigneusement noté. Certains jugements partiels sont déjà prononcés et exécutés. Mais ce n'est qu'en attente du grand jugement final, car tous devront rendre compte en ce jour-là. Et c'est dès maintenant, pendant qu'il en est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il nous faut nous pourvoir du seul avocat efficace devant ce trône de jugement suprême. Quelle joie et quelle assurance quand on peut faire partie de ceux dont parle l'apôtre. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et c'est ainsi qu'en tout temps, notre cause sera bien défendue face aux attaques de l'ennemi, celui qui est nommé l'accusateur des frères. Notre huitième point, verset 19, nous rappelle qu'il faut avoir de la bonne volonté. Et voilà qui me réjouit parce qu'il n'est pas écrit là qu'il nous faut être parfait pour être béni. Non pas que nous ne devions viser l'objectif de la perfection. C'est en effet dans cette direction-là qu'il nous faut tendre avec le secours du Seigneur par le moyen de cette sanctification qui est tellement nécessaire. Mais il est écrit qu'il nous faut de la bonne volonté. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir le désir de bien faire. À l'image de ce que dit l'apôtre Jean, pour nous, nous savons qu'il nous exauce toujours, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est donc exactement cela. Quand je veux manifester de la bonne volonté envers quelqu'un, cela signifie que je veux faire ce qui lui fait plaisir, ce qui lui est agréable. Et c'est cette bonne volonté qui, d'après notre verset, nous permettra d'avoir part aux plus excellentes des bénédictions. Et cette bonne volonté, remarquez bien dans le même verset 19, qu'elle ne va pas sans docilité. C'est vrai qu'on peut avoir de bons désirs, de bonnes intentions, et se tromper complètement parce qu'on n'a pas compris quelque chose d'important et qu'on en fait quelque part à sa propre tête. Ce qui plaira donc à Dieu, c'est la docilité de notre part, c'est-à-dire l'obéissance, et une obéissance complète, même si on ne comprend pas, l'obéissance de notre cœur, telle l'obéissance du bœuf qui est sous le joug. Le bœuf ne se pose pas des tas de questions chaque fois que son maître lui demande d'aller à gauche ou à droite, ou de tirer une lourde charge, ou de faire l'effort, sillon après sillon, de tirer la charrue dans la terre lourde, même s'il faut revenir sur ses pas à chaque fois, parce que le bœuf est docile à la voix de son maître. Et c'est aussi ce que le Seigneur a voulu apprendre à Saul de Tarse. Dès qu'il lui a parlé pour la première fois, il lui a dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Et Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a ainsi très vite appris la docilité et la parfaite obéissance qui a fait de lui cet homme de Dieu si utile et béni pour son Seigneur. Enfin, il nous faut considérer comme point final ce que le Seigneur a dit, car la bouche de l'Éternel a parlé, conclut notre verset 20. Notre texte d'aujourd'hui s'achève là et c'est bien. Il ne faut pas aller plus loin que ce que Dieu dit. La parole de Dieu, la volonté de Dieu exprimée par l'Écriture sainte. Voilà la conclusion définitive et indiscutable de toute discussion pour celui qui veut être béni de Dieu. Et cela a pu se vérifier au travers des siècles, en toutes circonstances, jusqu'à aujourd'hui. Voici encore une anecdote réelle qui s'est passée il y a bien longtemps, au temps de la guerre de 30 ans. Les pillages et les violences des troupes de soldats dans une paroisse du Hanovre, en Allemagne donc actuelle, semaient la terreur sur leur passage. Hinz et Drews, deux paysans, des chrétiens fidèles, vivaient avec leur famille dans deux fermes assez proches l'une de l'autre, mais retiré dans un bois. Plusieurs fois pillés, ils avaient cependant réussi à sauver ce qu'ils cachaient précieusement, leur Bible de famille et un recueil de cantiques. Lors des veillées le soir, quand on allumait un grand feu dans l'âtre, le père de famille réunissait toute la maisonnée pour écouter la parole de Dieu et chanter des cantiques. Il allait alors chercher le précieux livre dans un énorme fauteuil recouvert de cuir dont le siège avait été transformé en cachette secrète. Un soir, à la ferme du père Drevs, alors qu'on le veillait et s'entretenait des dernières nouvelles, espérant la paix, le voisin Hinz, tout essoufflé, entra précipitamment. « Détache vite les bêtes et fuyons, les impériaux ne sont plus qu'à 2 kilomètres !» Tout le monde se lève en sursaut, on muselle le bétail pour l'empêcher de beugler, on réunit à la hâte quelques vêtements et provisions, et l'on se dirige bien vite et le plus silencieusement possible au cœur de la forêt. Hinz se cache derrière un arbre non loin des fermes pour voir ce qui va se passer. Ah, il n'a pas à attendre longtemps. Un quart d'heure à peine s'était écoulé lorsqu'il vit une épaisse fumée s'élever vers le ciel. Maisons et dépendances, tout était en flammes. Les ennemis, furieux de n'avoir rien trouvé, avaient tout incendié. Hinz courut rejoindre ses amis cachés dans un fourré et leur apprendre ce malheur. Tous tombèrent à genoux et remercièrent Dieu d'avoir sauvé leur vie et leur bétail. Pas un ne versa une larme. Ne pouvaient-ils pas construire des huttes dans la forêt ? Et leur cœur devait-il s'attacher au bien de la terre ? Mais une pensée tout à coup assombrit le père Drevs. Les Bibles, elles avaient brûlé. Comment feraient-ils maintenant pour se nourrir de la parole de Dieu ? Tous étaient dans la tristesse. C'est alors que le vieux grand-père Hinz, qui avait plus de 80 ans, leur dit tranquillement « Ne vous inquiétez pas si nos livres sont brûlés, notre Dieu est sauveur et vivant. Je vous réciterai chaque matin et chaque soir un chapitre de la Bible. » Et il commença aussitôt avec les psaumes 23 et 73 et le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset par verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni profondeurs, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Tous écoutèrent, rassérénés, puis chacun s'endormit paisiblement dans le taillis, assuré de la protection de Dieu. De bonne heure, le matin, Hinz et Drevs, accompagnés de leurs 2 aides, se dirigèrent vers les ruines de leur ferme. « Cherchez les Bibles !» leur cria le vieux grand-père tandis qu'il s'éloignait. Les paysans s'approchèrent prudemment du foyer de l'incendie. Tout était silencieux comme la mort. Mais soudain, des gémissements les arrêtèrent. Sans hésiter, ils se dirigent vers l'endroit d'où ils viennent. Et que voient-ils ? 2 soldats impériaux, grièvement blessés, assis sur leurs 2 grands fauteuils. Les ennemis avaient traîné leurs camarades jusqu'au coin de la forêt, les avaient installés dans les fauteuils, puis ils étaient partis sans plus s'en inquiéter. Lorsque ces malheureux virent arriver les hommes dont ils avaient incendié les maisons, ils s'attendirent à la mort. Ils se trompaient. Hinz et Drevs les portèrent dans le bois. À la vue des fauteuils et des Bibles intactes, tous éclatèrent de joie. On soigna avec sollicitude les blessés, mais rien n'apaisait leurs souffrances, comme les prières et les exhortations que le grand-père Hinz puisait pour eux dans la parole de Dieu. Les jours passant, ils se convertirent au Seigneur Jésus et confessèrent leur foi en leur Sauveur avec détermination. Dieu réservait encore à ses enfants une joie d'une autre espèce. Lorsque les blessés sentirent qu'ils allaient mourir, ils appelèrent le grand-père et les 2 paysans et les remercièrent une dernière fois de leur avoir montré le chemin du salut. Puis ils léguèrent leurs uniformes en leur recommandant de les découdre après leur mort. C'est ce qu'on fit, mais seulement après avoir honorablement enterré ses 2 nouveaux frères. Et l'on trouva dans la doublure assez de pièces d'or pour reconstruire les maisons et les étables brûlées. Une pierre fut érigée sur leur tombeau. Elle portait l'inscription suivante. L'an 1642 de notre Seigneur Jésus-Christ. Sont morts et ont été enterrés ici Frédéric Wenceslas de Bohême et Martin Jurichitz de Lusace, qui ont sauvé la Bible sans le savoir et ont été sauvés par elle à jamais. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, Après ces exhortations, ces témoignages, ces exemples, nous voici tous invités à développer avec le secours de Dieu cette attitude qui est décrite dans ces quelques versets et de faire de tout notre cœur. C'est ainsi qu'on obtient le plein pardon, comme il était dit au verset 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est ainsi que le Seigneur, selon sa promesse, nous accorde les meilleures bénédictions. Comme il était dit au verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes des dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun de nous. Te remercions, Seigneur, parce que tu es toujours le même. Te remercions parce que ta parole est encore vivante et efficace. Est encore le moyen par lequel tu nous indiques la voie du salut, la voie de la vie, Seigneur. Et merci parce que lorsque nous regardons à toi, eh bien, tu accomplis cette bonne œuvre et tu nous remplis de ta joie et de ta paix. Merci parce que tu veux le faire encore pour chacune et chacun de ces bien-aimés qui sont là et qui maintenant te confient leur vie, qui maintenant se tournent vers toi. Amen. Amen. Et pour conclure, mes amis, quelques annonces, simplement pour vous rappeler que nous envisageons toujours samedi l'évangélisation dans les villages. Rendez-vous à l'église à 14h30. Nous poursuivons avec la distribution d'invitations dans les boîtes aux lettres pour l'instant. Voilà. Le culte dimanche se tiendra toujours aussi, soit à 8h30, soit à 10h45. Et si vous voulez y participer, inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone. La réunion de prière du mercredi se tient toujours à 16h et il n'est pas la peine de s'inscrire à l'avance. En tout cas, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, en particulier ceux qui ont à cœur de venir à lui en suivant exactement les recommandations qui sont données par sa parole. Amen.